Chers amis, un grand merci d'être venus ce samedi matin pour une causerie un petit peu improvisée et pour laquelle j'ai pas fait du tout de publicité. Mais ça, depuis longtemps, j'étais impatient parce qu'en fait, on parle de Louis Appiah, on parle de Théodore Monnoir, on parle de Gustave Adore, et en fait, on parle moins maintenant d'Henri Dunant. Et je trouvais que là, il y avait un déficit. Bon, ça, c'est clair que ça fait 30 ans qu'on a travaillé sur Henri Dunant, mais quand même, il y a un déficit. Alors, je suis revenu dans mes vieux papiers. Regardez, il y a encore de la poussière.
Ouais,
et ça, ça, c'est les 350 pages de L'Avenir sanglant. Et c'est un manuscrit d'Henri Dunant que j'avais préparé. Vous voyez, il est prêt. Il est prêt. Bon, alors, il y a pas mal de notes, il y a pas mal de variantes. Justement, je vous parlerai du manuscrit. Donc, pour parler de L'Avenir sanglant, manuscrit méconnu et malmené d'Henri Dunant, je pense qu'il faut en premier parler d'Henri Dunant, méconnu et malmené. Parce que ce manuscrit, c'est quand même l'aboutissement d'une longue période de sa vie qui a été tout sauf brillante et agréable pour lui. On remonte en 1867, c'est le moment où il est au sommet de la gloire. Il vient d'être reçu par l'impératrice Eugénie avec mandat d'étendre à la marine les bienfaits de la Convention de Genève. Il a été reçu par la reine et le roi de Prusse, qui sont les grands vainqueurs de l'Autriche en 1866. Donc, il est au sommet de la gloire. Il reçoit des ordres de chevalerie et en même temps, son aventure financière capote. C'est la fameuse faillite de 1867. Alors, on pourrait dire que 1867-1875, c'est une faillite financière, c'est aussi une faillite citoyenne, puisqu'il s'auto-exile de Genève, à laquelle il était très attaché, et il n'y reviendra plus jamais.
Hein? Il y en a un qui l'a bien poussé, quand même.
Il y en a plusieurs qui l'ont poussé, mais c'était son choix. C'est une faillite, on pourrait dire, de patrimoine, puisqu'il est chassé du CICR, lui qui a fondé la Croix-Rouge. C'est une faillite confessionnelle, parce qu'il est exclu de l'Union chrétienne de Genève. Hein, c'était une blessure dure. Hein. Oh là là. C'est une faillite familiale, puisque, à première vue, il n'a plus aucun contact direct, physique, avec les membres de sa famille, jusqu'à Haydn, les années 1892-93. Donc 67-92-93, vous voyez, alors qu'il était très attaché à sa famille et qu'il vouait pour sa mère une sorte de vénération. C'est aussi une faillite sur un de ses objectifs, le sionisme, le retour des Juifs en Palestine. C'est aussi une faillite politique. Il était bonapartiste, partisan de Napoléon III, admirateur de Napoléon III, et très à l'aise dans le Second Empire. Mais vous savez que le 4 septembre 1870, le Second Empire est chassé par la République, et donc tous les bonapartistes font partie du clan des perdants depuis ce moment-là. Mais c'est aussi et surtout une faillite humanitaire, puisque non seulement il est exclu de l'institution qu'il avait fondée à Genève, mais l'effort et le montage qu'il avait créé pour les prisonniers de guerre avec la conférence de Bruxelles lui est volé par la Russie. On peut dire il avait réussi à mettre sur pied une convention pour la protection des prisonniers de guerre qui soit le pendant de la Convention de Genève. Mais la Russie lui vole son projet et il faudra attendre les conférences de La Haye, 1899 et 1907, pour que le cas des prisonniers de guerre soit repris. Et puis, c'est toujours en faillite...
Pourquoi il a été exclu du CICR.
Alors ça, c'est une vieille histoire qui remonte à l'été 67. C'est parce que il est lié à la faillite, on pourrait dire suspecte, d'une banque de spéculation qui s'appelait le Crédit Genevois. Il était un des administrateurs et aussi un des débiteurs. Et les milieux financiers savent que tout est pourri là-dedans. Et il y aura un jugement en 68 qui va condamner les administrateurs du Crédit Genevois. Mais tout le monde sait, dans les milieux de la finance, donc les milieux de la Croix-Rouge, il ne faut pas rêver, que Dunant est lié à une affaire tout à fait scabreuse et ténébreuse. Et c'est pour ça que le comité international, sous la plume de Gustave Moynier, lui demande de démissionner du comité. Et Dunant écrit qu'il démissionne, et Moynier lui écrit une seconde lettre en lui disant « Monsieur, nous avons bien pris connaissance de votre démission comme secrétaire du comité, mais aussi comme membre du comité. » C'est paf, paf, c'était, sans pitié.
C'était mon arrière-grand-père direct qui a écrit ça.
Mais il l'a écrit selon la décision du comité. On ne peut pas imaginer. D'accord. Mais il y a quand même dans le comité des fortes personnalités comme le général Dufour, comme Louis Appia, comme Théodore Monnoir. C'est pas des gamins.
Non.
S'il y avait eu une voix pour une solution apaisante, on l'aurait entendu.
Maintenant, si tu permets juste une petite remarque sur le côté. Moi, j'ai l'habitude, en plaisantant à moitié, de dire que, sans le savoir peut-être, Henri Dunant a joué à Bernard Madoff. Parce que, d'après ce qu'on sait, il a remboursé des créanciers au fur et à mesure en sollicitant de nouvelles créances.
Les détails de la faillite ne sont pas très bien connus, mais oui, oui, les administrateurs du Crédit Genevois ont spéculé sur leurs propres titres. Ça, c'est clair, mais pas lui. Lui, il avait besoin d'argent frais pour éteindre notamment une créance que le Crédit Lyonnais avait contre lui. Lui, il n'a pas boursicoté, il ne pouvait pas. Il était simplement acculé par les dettes accumulées en Algérie. De ce qu'on sait, mais peut-être que on sait en tout cas que les administrateurs du Crédit Genevois avaient spéculé sur leurs propres actions. Mais ça n'a pas du tout bien joué. Toujours est-il qu'on est donc dans une faillite humanitaire pour la question des prisonniers de guerre, où lui espérait se refaire comme une personnalité dans le monde international de l'humanitaire. C'était 1872. Et puis celle qu'on sait moins de faillite humanitaire, c'était l'abolition de la traite des Noirs, des esclaves. Et c'était son premier engagement d'Henri Dunant, la lutte contre l'esclavage, puisqu'il avait écrit un petit bouquin en 63 là-dessus. Et il avait essayé de lancer de nouveau un congrès diplomatique, cette fois-ci à Berlin, pour que les puissances décident de l'abolition de la traite. Et je n'ai pas besoin de vous dire que ça n'a pas marché, et que le congrès de Berlin a finalement eu lieu en 1878, où ils ont simplement continué à se partager le monde, ces braves Européens. Donc couper à coups de sabre les frontières, notamment de l'Afrique. Donc nous avons là, entre 67 et 75, une succession de tentatives et autant d'échecs. Donc c'est un homme brisé qui va tenter de subsister entre 1875 et 1890 environ. Là, nous avons vraiment 15 ans d'obscurité. Alors, nous savons qu'il a le moral dans les talons, qu'il est très affecté, peut-être même qu'à certains moments, on a dû l'hospitaliser par faiblesse ou maladie ou surmenage mental. C'est tout à fait possible. On n'en a pas la preuve, mais ça ne semble pas impossible. On sait qu'il voyage beaucoup. C'est la France, c'est l'Allemagne, c'est l'Angleterre, c'est l'Italie, peut-être même plus loin, mais on n'a pas de preuves. On sait, oui, qu'il pensait aller en Palestine, hein, c'était un de ses rêves. On sait qu'il se trouve une protectrice, Léonie Kastner, depuis 1871-72, et ça va durer pendant 8-10 ans, mais après il y a une rupture vers les années 80-82. On sait qu'il a un seul ami, Rudolf Müller, qui est un prof dans un lycée à Stuttgart, et qui l'écoute, et qui lui sert de confident. On ne sait pas plus sur leur relation. Et jusqu'à présent, on n'a pas estimé intéressant d'échafauder des hypothèses qui seraient assez bouleversantes, mais en même temps éclairantes, sur leur liaison. Et ils se voient, et ils se rencontrent, et Rudolf va le voir à Londres, et lui, parce que Dunant, pendant un certain temps, est accueilli par un pasteur Wagner à Stuttgart, mais on sait très très peu de choses. Et on n'a aucune information extérieure. On a cette correspondance-là, et puis, c'est assez, disons que ça l'a sauvé, manifestement, mais ça ne lui a pas permis de vraiment sortir la tête de l'eau. Et c'est donc une longue période où nous espérons en trouver plus, parce qu'on a très 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 peu de choses.
On a rien retrouvé à Stuttgart, par exemple, des choses qui sont...
Alors, la maison du docteur Wagner a brûlé pendant la Seconde Guerre mondiale. À la Seconde Guerre mondiale, elle nous coûte cher. La maison Kastner a été bombardée en Alsace, juste à côté de Strasbourg aussi, c'est 44-45. Et tout a volé en pièces. On n'a pas une ligne de Léonie Kastner, on n'a pas un portrait, on n'a rien du tout de Léonie Kastner. C'est assez troublant. Mais ce qu'on sait, c'est que pendant ces années-là, il écrit. Il lit, il rumine. Et c'est grâce à cette activité personnelle, vous savez qu'il prenait des grands cahiers, comme nos cahiers de géographie. Je ne sais pas si tu te rappelles, Cécile, vous n'aviez déjà plus.
On avait
des grands cahiers au cahier. Alors, heureusement, il en a conservé une centaine. Et il l'écrivait dans un sens, après il retournait le cahier, il écrivait, après il l'ouvrait au milieu, il commençait comme ça, après il le reprenait, puis il écrivait. Bref, alors c'est des notes de lecture, c'est des pensées qui lui viennent à l'esprit, c'est des projets de livres. Et c'est assez passionnant. Et heureusement, ceci a été sauvé. Donc, grâce à cette documentation-là, nous avons pu trouver un certain nombre d'éléments. Alors, oui, puis il dessine, c'est juste, hein, il y a les fameux diagrammes. Mais ces diagrammes, on les situe plus vers 1890-92. Hein, mais ce n'est pas sûr. Hein, mais c'est cette période-là.
Ils sont déposés où, ces cahiers?
Alors, les cahiers sont à la bibliothèque de Genève. Et encore miraculeusement, hein, c'est le conservateur du cabinet des manuscrits qui l'a sauvé. Il me racontait qu'un jour, c'était dans les années 48-49, il voit un char arrive tiré par une bête dans les bastions. Et sur ce char, il y a un ou deux... Des coffres un peu comme les coffres d'écoliers de nos grands-pères, des coffres en bois. Hein, et ces coffres ont été conservés. Et c'est le jardinier ou je ne sais pas quoi de la veuve de Maurice Dunant qui dit « Oh, ma patronne veut se débarrasser de ces choses-là. Comme c'est des papiers, je suis allé aux archives d'État. » Les archives ont dit que ça ne les intéressait pas. Et il est descendu dans les bastions. Là, il pouvait arriver jusque devant la BGE. Le garde l'appelle. Et c'est Bernard Gagnebin, qui était mon maître, qui voit ça et qui, naturellement, tout de suite, les a pris. Et il les a fait monter dans le grenier de la BGE, qui était encore un vieux grenier. Et ces trucs ont dormi jusque dans les années 1970. Hein, c'est marrant. 48-49 70.
C'est toi qui les as...
Alors disons que
c'est
Bernard Gagnebin qui le premier les a sauvés, ouais. Et a commencé à les utiliser. Mais malheureusement, il est allé trop vite. Il avait fait taper des textes par la secrétaire de Pierre Boissier. Ils ont ajouté des titres. Ils ont fait une publication à la hâte. Et c'est notamment celle-ci. C'est-à-dire que c'était une réédition du souvenir de Solferino avec suivi de l'avenir sanglant. Et là-dedans, il y a une trentaine de pages tirées de l'avenir sanglant, mais avec des interruptions pour que ce soit littéraire, facile à lire, etc. Et malheureusement, c'est pas du tout un travail scientifique. On en est fort triste. Et ça date de 1969. Et puis les éditions Zoé ont réédité que ces petits passages.
Ah oui.
Ils ont réédité que ces petits passages en 1994. Mais à part ça, il n'y a rien. Et donc, c'est de nouveau uniquement des bouts de texte d'Henri Dunant qui ont été piqués de là-dedans. C'est ce qu'on appelle, nous, du pillage intellectuel. Mais mon Dieu, au moins, ça existe. Bien. Et donc, c'est intéressant de voir ces manuscrits. On va quand même souligner qu'il y a en tout cas trois projets de livres qui étaient avancés, pas finalisés, mais très avancés. C'était Le souper du Seigneur, celui-ci, donc que mon frère avait édité comme étudiant en lettres, mais je ne sais pas, c'était en 1990. Et ce mémoire glissance était resté sous le boisseau, et puis on l'a sorti il y a 2-3 ans avec Stéphane, qui s'est régalé dans la mise en page du texte, n'est-ce pas ? Si ça t'intéresse, il est pour toi. Alors, du vivant de Dunant et jusque dans les années 1970, dans Le souper du Seigneur, que L'avenir sanglant, que un autre projet de livre, Les Juifs et la Palestine au XXe siècle, ces textes sont restés inédits. Et c'est pour ça que maintenant j'ai décidé que ça, on va le publier parce que zut, crotte et flûte. Et non. C'est très intéressant.
Et en fait, c'est que toi qui as toutes les 350 pages mises.
Ben, c'est moi qui l'ai fait.
Voilà.
C'est moi qui l'ai fait. Alors j'ai un petit problème technique qui est un problème personnel. C'est que la mise en page avait déjà été faite par Tony Gugisberg. Malheureusement, je n'ai pas la disquette. Et
ça, on le trouve encore.
Oui, c'est sûr, et j'en tiens à votre disposition, c'est sûr, tout à fait.
Celui-là aussi.
Lequel ? Alors, celui-ci, moi j'en ai qu'un exemplaire, c'est Zoé, les éditions Zoé, tu vois.
Ah, c'est pas vous.
C'est pas, nous, non, c'est pas du tout nous, parce que ça, on dit que c'est du massacre. Tandis que ça, c'est de la publication scientifique, tu vois, okay. Nous sommes donnés. Mais volontiers, j'en ai ici, n'oubliez pas de me les demander. Nous sommes enchantés. Alors. Nous avons donc là quelque chose d'assez étonnant. Et par exemple, dans un des cahiers où je vous dis que Dunant notait des réflexions, etc., etc., il parle presque tout le temps à la troisième personne, hein, pour rendre son discours ou ses écrits plus objectifs, plus, etc., etc. Je vous lis. Plus d'élan, plus de ferveur. Lorsqu'il veut prier, seul, à voix basse, dans sa chambre fermée, son esprit est lourd, son attention ne peut plus parvenir à se fixer. Ses lèvres sont pesantes, difficiles à remuer, comme engourdies. sa bouche se refuse en quelque sorte à prononcer des paroles qui sont pourtant dans son cœur. Une force d'inertie retient ses paroles, qu'il ne peut parvenir à formuler et qui s'étouffe peut-être dans un bâillement pénible, involontaire, contre lequel il ne trouve aucun remède. Ce n'est pourtant ni l'ennui, ni la fatigue, ni le sommeil qui l'amène à ce bâillement. Il cherche encore à prier, il en a le sincère désir, mais il ne peut desserrer les dents. Il ne peut arriver à prononcer ses pensées nettement, et alors, après quelques soupirs, lassé, découragé, il renonce à prier ou se laisse envahir par une somnolence désolante, mais même si elle n'est pas souvent douloureuse. Hélas, c'est que le cœur n'y est plus, quoique le cœur y soit encore. C'est un beau passage pour montrer un état dépressif. Hein.
Pathétique.
Et alors, c'est pour ça qu'il écrit. Il n'arrive plus à parler, et heureusement pour nous, il écrit. Et il dessine ses fameux diagrammes. Et je pense que cette introduction longue était importante pour comprendre le cadre dans lequel ce projet de livre a pris corps, en rappelant bien que le manuscrit n'est pas achevé, hein, il est avancé mais pas achevé. Pour compliquer les choses, on a plusieurs versions. Il y a plusieurs passages qu'il a écrits, on pourrait dire indépendamment l'un de l'autre. C'est pas qu'il a fait un truc, puis il réfléchit, puis il le reprend, puis il le modifie. Non, parfois, par exemple, pour les génies malheureux, il y a trois textes différents qu'il a écrits à des moments différents, mais pas comme des améliorations d'un premier. Alors, pour l'établissement d'un texte, c'est très compliqué. Parce que comme par hasard, il y a des passages intéressants dans les trois états différents. Donc là, il y a du travail. Il est aussi important de rappeler que pendant toute cette période, on pourrait dire de maturation ou de ruminement ou de méditation ou de dépression, Henri Dunant lit beaucoup. La grande question, c'est... comment se procurait-il, parce qu'on a au moins une cinquantaine de livres qu'il cite. Et ça nous montre que dans toute cette période d'errance, il n'était pas complètement démuni comme on peut le penser. Alors il avait la rente de son oncle, David Dunant, mais 3 francs par jour. On ne fait pas grand-chose avec 3 francs par jour. Pendant longtemps, il a bénéficié de la protection de Léonie Kastner. On peut penser qu'ils allaient de pension en cure d'eau, en pension, etc. Et c'était des pensions où il y avait certainement des bibliothèques.
Voilà, j'allais dire.
Je pense qu'il y avait des bibliothèques. Ouais. On n'a pas retrouvé la bibliothèque d'Henri Dunant. À la Chèvrerie, Gabriel Mutzenberg avait retrouvé quelques livres, mais c'était des livres où Dunant avait marqué son nom. Mais ce sont des livres de piété ou de mission. On ne sait pas, mais c'est déjà un miracle que ces 100 cahiers nous soient parvenus quand on sait à quel point il a eu une vie errante. Le fait qu'il lise beaucoup, qu'il prenne des notes, a éveillé notre attention, parce que nous nous sommes rendus compte, je me suis rendu compte, que, en fait, dans le texte en guillemets définitif, on retrouvait des bouts de citations qu'il avait notées dans un autre cahier, qu'il avait un tout petit peu modifié, qu'il avait intégré, puis après il l'écrit comme si c'était lui. Alors ça, c'est intéressant, mais c'est ennuyeux. parce que manifestement, ce livre, c'est le fruit de ses réflexions, de ses lectures, de son intégration d'un certain nombre de textes qu'il a lus. Et on ne peut pas tout le temps citer la source. Et là, il y a toujours le danger qu'on nous traite de plagiaire. Et par exemple, aujourd'hui, si Henri Dunant sortait ce livre comme ça, par exemple en Allemagne, il serait tout de suite l'objet d'enquête. Avec maintenant les modes informatifs, on trouverait un certain nombre de phrases, mot pour mot, qu'il a copiées, mais dont il a oublié les guillemets. Hein?
Alors, au moment où tu publieras ça, SHD publiera ça, est-ce qu'une simple note d'avertissement au lecteur peut neutraliser ces objets?
C'est ce que nous ferons, c'est sûr. Ouais. Mais nous donnerons même un ou deux exemples. Ouais, puis on lancera un appel à ceux qui adorent faire ce genre de recherche. Aidez-nous à retrouver les sources premières. Plus on peut en trouver, mieux c'est. On pourra faire une seconde édition, cas échéant.
Est-ce qu'il avait un genre de lecture plus précis?
Alors, là,
ça concernait par exemple des conflits ou quelque chose comme ça?
Il lit la revue des Deux Mondes, qui était une des revues scientifiques libérales bourgeoises de l'époque, et de très bonne qualité. C'était une référence. Alors, il a beaucoup de citations. Et moi, j'imagine bien que dans telle ou telle pension, on était abonné à la revue des Deux Mondes. C'était une. Il lit le Journal de Genève, même si il n'aime pas certains Genevois et qu'il ne retourne pas à Genève. Il lit assez souvent le Journal de Genève. Mais de nouveau, ça devait être le journal que, dans des pensions un peu chiques, on avait le Journal de Genève.
Parce
que
c'est, la Vue des Deux Mondes, elle est publiée à Paris.
Oui, tout à fait. Alors autrement, c'est des ouvrages pacifistes, c'est des ouvrages de philosophes, beaucoup francophones, mais il est un petit peu... fasciné par l'Angleterre, par la langue et la civilisation anglaise. Alors il y a un certain nombre de références, probablement qu'il lisait l'anglais, mais il ne lisait pas l'allemand, manifestement. Encore qu'il avait une grande admiration pour un jeune empereur qui s'appelait Guillaume II. Hein, ça c'est marrant, ça c'est un texte qu'il faudrait une fois qu'on publie. C'est marrant. Il choisit son titre définitif, Un déluge de sang et pourquoi l'avenir sanglant. C'est donc quelque chose d'un petit peu choc comme ça, mais c'est son titre. Et il donne comme exergue, donc une petite maxime tout en haut, j'avoue que je ne suis pas savant, tout au plus un lettré, et je n'écris pas pour les savants. Et dans sa préface, voilà ce qu'il dit. Cet écrit, avec ses imperfections et défauts, réclame l'indulgence de ceux qui le liront. S'il s'y trouve quelques pierres précieuses, enchâssées comme dans une mosaïque, nous n'avons guère d'autre mérite que celui de les avoir réunies en cherchant à les faire briller le plus possible par ce modeste travail. Loin d'avoir collectionné comme à plaisir des citations écrasantes pour corroborer nos opinions, nous avons choisi celles dont le nom d'auteur rendront attentives les personnes qui pensent. Les personnes qui pensent, et ça il l'a mis entre guillemets, afin que celles-ci puissent en faire leur profit.
En parenthèse, c'est un français impeccable.
Ah, il a une plume. Ah oui. Et ceux qui ont prétendu qu'il avait volé le manuscrit du souvenir de Solferino à un oncle, etc., c'est des jaloux, c'est des envieux, c'est des misérables. Notre but n'est point d'épouvanter par des images tragiques à l'aide d'un style boursouflé, et nous n'avons pas cherché à employer les expressions les plus vigoureuses comme pour frapper à coups redoublés avec une véhémence continue, dans le dessein peu charitable d'épouvanter le lecteur. Etc., etc. C'est une belle préface. Hein? Et mieux vaut prévoir le bien que le mal, dit-on. Le pessimisme est une faiblesse. Si l'on nous accuse de pessimisme, nous rappellerons que la constatation de l'existence du mal dans la nature et dans l'humanité est pourtant le fond même de toute philosophie et que, bien loin d'énerver la volonté, il est le principe de l'action et de l'effort vers le bien. Wow, c'est tourné ça, hein, hein? Ah, ouais. Bon, alors, tout de suite, il dit bien une mosaïque de pierres précieuses. Alors, probablement qu'il y a des petits bouts qui l'ont frappé, puis il les intègre. Et il ne met en guillemets que les personnes qui pensent. Je n'ai pas retrouvé, parce que les personnes qui pensent trouver quel est le livre où se trouvent ces quatre mots, je peux vous dire que ce n'est pas facile du tout.
Peut-être que même. Un philosophe grec déjà.
Oui, mais oui. Bon. Enfin, voilà. Alors, il a plusieurs thèmes. C'est assez étonnant. Son premier thème, c'est dénoncer le colonialisme. Et ça montre bien que c'était son premier engagement humanitaire. Hein, c'était la lutte contre l'esclavage. Colonialisme, esclavage, c'est assez proche.
Le bus d'Henri Dunant ne sera pas barbouillé.
Attends de voir. Comment modifier la manière d'agir des nations policées envers les peuples que nous, Européens, avons asservis, rançonnés, dépouillés, décimés, écrasés pendant des siècles, avec notre politique coloniale presque toujours avide, immorale, arbitraire et brutale. Boum, c'est pas mal envoyé tout ça, n'est-ce pas?
C'est très d'actualité.
Pendant des siècles, je saute, mais je trouve que le mieux c'est de vous lire un certain nombre de passages, parce qu'on voit pendant des siècles, la chrétienté a considéré les, en guillemets, états chrétiens comme ayant un droit légitime d'occupation par la force sur les territoires du globe non encore soumis à la domination d'un, en guillemets, prince chrétien. Cette hypocrisie a cessé, mais aujourd'hui, on parle de l'intérêt de la civilisation, de la mission supérieure des peuples policés, et l'on s'empare sans scrupule de tout pays qui n'est soumis à l'action d'aucun État dit civilisé. On assume un protectorat, ce qui est absolument la même chose, par ce prétendu droit d'occupation, on cherche à faire des sujets de toute peuplade libre, organisée, indépendante, pendant que pour légitimer la prise de possession, on extorque le consentement des indigènes par la ruse ou par la violence. C'est pas mal, hein?
Pas oublier qu'il a vécu quand même ce qu'il a vécu en Algérie, donc il a...
17. Parce que quand il est arrivé en 53 en Algérie, l'Algérie venait d'être, comme on dit, pacifiée. C'est-à-dire que toute résistance avait été cassée et il y aura encore...
De quelle manière?
C'était brutal comme on peut penser, mais pas autant brutal que les colons blancs aux États-Unis. Hein? Parce que là, aux États-Unis, il y a vraiment eu un génocide hein, de toutes les populations indigènes sur l'est et le centre des États-Unis. Tandis que pour l'Algérie, il n'y a pas eu de génocide à proprement parler. Il y a eu des comportements monstrueux, des massacres, des enfumages, du terrorisme d'État, etc. Enfin, mais juste comme ça, je prends maintenant la première phrase de ce chapitre. Et tenez-vous bien. Certes, il était temps de fonder dans le noir et mystérieux continent un vaste état neutre du Congo, à la fois pacifique, international et civilisateur. Et donc, c'est assez marrant parce que quand il écrit ça, il ne peut pas ignorer que Gustave Moynier est consul général de l'État libre du Congo à Genève. et que c'est son œuvre. Ou bien est-ce qu'il l'ignore? Mais c'est assez marrant, parce que là, il fait un compliment. Alors, direct, il faut que j'envoie cette phrase à Elisabeth. Hein. Il faut absolument. Ouais. c'est assez étonnant. Hein.
C'est ce qui est devenu le Congo belge?
Oui. Oui, ouais, oui, ouais. Alors que la colonisation du Congo belge a été épouvantable. Hein, épouvantable.
Mais avec cette nuance juridique que c'était la propriété privée de Léopold et pas du tout
de l'État,
belge qui colonisait. Ça ne change pas grand-chose à la réalité, mais enfin c'est quand même... Ça lui permettait peut-être de commettre des exactions qui n'auraient peut-être pas eu lieu autrement, on n'en sait rien. Non ?
Oh non, il était... Léopold II avait réussi à se faire accepter comme le maître du Congo par les États qui cherchait ces parties-là, c'est-à-dire la France qui a eu le Congo, Brazzaville, la rive droite, et puis par, je ne sais pas quel est l'État qui se trouvait au sud, est-ce que c'était le Portugal, est-ce que c'était un bout de l'Angleterre, je ne sais plus. Mais, et puis surtout, il a réussi à se faire cautionner par les États-Unis aussi, parce qu'il, Léopold II, parce qu'il a... Il a montré qu'il luttait contre l'esclavagisme. Hein, les musulmans depuis le Soudan faisaient des raids au Congo pour prendre des populations qu'ils vendaient après en esclaves dans le Moyen-Orient. Et puis, il a aussi dit qu'il fallait absolument lutter contre l'invasion de l'islam. Donc, Léopold II a soutenu très très fortement les pères blancs de l'église catholique romaine pour évangéliser le Congo. Ça, c'était perçu comme très 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 bien, tu vois. Et puis, il avait aussi lancé un truc qui l'intéressait beaucoup, c'était la neutralisation du fleuve Congo. Et c'est ça qui lui a valu le soutien des grandes puissances. Ils avaient neutralisé le Danube. Auparavant, il y avait eu une convention internationale qui interdisait aux riverains du Danube de bloquer la circulation des navires. Et il a réussi à installer ça pour le fleuve Congo. Alors ça, c'était considéré comme un fleuron de l'apport, n'est-ce pas, de la civilisation européenne à ces barbares qui se tuaient tout le temps. C'est très complexe. Mais en plus de ça, les milices, parce qu'il avait des milices, Léopold II, se sont conduites avec une brutalité épouvantable contre ceux qui résistaient. Alors ça, on a donc son premier constat, c'est que l'Europe se livre à une politique coloniale qui est complètement scandaleuse, immorale, etc. Il développe aussi le problème qu'il appelle moral. En outre, la crise morale de notre temps, plus grave chez les peuples de race latine, où elle prend un caractère alarmant, s'accentue chaque année davantage et semble menacer la société d'un véritable cataclysme. Comme pour hâter cette crise fatale, augmenter l'anarchie des esprits et précipiter le monde vers une dissolution sociale, nous voyons les forces les plus puissantes de la nature convertis par les hommes en instruments de destruction. Nous voyons les nations les plus intelligentes rechercher avec avidité, dans l'appréhension d'une conflagration générale, à être les plus grandes, les plus puissantes par la force brutale, par le fer et par le feu. Donc il fait une analyse. Oui,
à quel événement ou groupe d'événements fait-il allusion quand il parle des nations latines dont
Alors,
le moral s'effondre?
Alors, toi, il dit les peuples de race latine. Il faut se rappeler que jusqu'à aux horreurs nazies, le mot race, mis pour la race française ou la race bulgare ou la race latine, c'était un terme tout à fait admis et qui n'avait pas les connotations terribles qu'elles ont prises lorsque les juifs ont été qualifiés de race juive qu'il fallait éliminer. Donc ça, beaucoup, mais c'est aussi le moment où se développent les véritables théories racistes. Et à l'époque, donc là, on est dans les années 1875-1890, c'était tout à fait normal de parler de race. Oui. Et dans les diagrammes, on voit très bien que les races latines, c'est-à-dire françaises, italiennes, espagnoles, qui, comme par hasard, sont aussi catholiques en passant, sont des races en... comment est-ce qu'on pourrait dire ça ? Oui, en décomposition, alors que les races nordiques, les germaniques et surtout les anglo-saxons, c'est les races qui sont amenées à bâtir un monde nouveau. Hein, ça, et comme par hasard, elles sont issues de la réforme. Hein, on n'est pas tendre. Et ça, ça c'est le credo d'Henri Dunant. Hein, mais c'était le credo d'énormément de gens. Il faut se rappeler qu'on est encore en plein Kulturkampf, c'est-à-dire la guerre entre les races germaniques protestantes et puis les races catholiques, italiennes, etc. On est dans cette logique-là.
Une petite question. Qui bloquait le Congo ?
Ben, le Congo faisait partie des zones géographiques qui n'avaient pas été conquises par les Européens. Et personne à qui bloquait le fleuve Congo ?
Oui.
Ah ben, c'est les riverains. C'était des peuplades autochtones qui, chacune, naturellement, voulait contrôler le fleuve à l'endroit où elles avaient des rives. Tout le monde a tout le temps fait ça. Hein, maintenant, on est habitué à la neutralisation des grandes voiles. Suez, Panama sont neutralisées. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas.
Ça permettait de percevoir des péages,
voilà.
Des droits de passage.
Ou d'exercer des pressions sur tel état en disant voilà. Je ne laisse pas passer tes bateaux, etc. Donc, il y a un souci moral, social, qui préoccupe Dunant et qui est un des facteurs de cette marche de l'Europe vers un véritable cataclysme. Il est obsédé par cette vision-là. Alors, il va lancer un slogan très 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 fort, guerre à la guerre. Hein, et c'était un des leitmotifs des mouvements pacifistes qui sont énergiques. Il faut se rappeler que il y avait dans tous les pays d'Europe des mouvements militaristes hyper puissants, mais il y avait aussi des mouvements pacifistes qui avaient une certaine force, une certaine audience. Simplement, ces mouvements pacifistes, eh ben, ils ont coulé pertes et âmes en 1914 avec le début de la Première Guerre mondiale. Mais jusqu'alors, il y avait des courants assez forts. Alors, l'Égérie qu'on connaît tous, c'est Bertha von Suttner, qui était la secrétaire d'un certain Alfred Nobel. Mais il y avait des milieux, des femmes pour la paix, notamment, qui étaient très efficaces. Les espérantistes étaient aussi des pacifistes. Et puis, dans des milieux d'église, il y avait une action pacifiste, mais c'était plus une action sociale. Hein. On est dans la période du christianisme social, que ce soit dans les régions catholiques ou les régions protestantes. Il n'y a pas encore le grand combat contre le militarisme et la guerre. Alors, dans ses phrases sur la guerre, là, alors, Dunant accumule des citations de personnes, ou plutôt des personnalités du monde des idées. Par exemple, Bossuet, « La guerre est une chose si horrible que je m'étonne comment le seul nom n'en donne pas l'horreur. » Klopstock, affirme la guerre et la flétrissure du genre humain. Goethe écrit « Les longues calamités de la guerre ravissent à l'homme toute croyance à l'humanité », etc. Condorcet, « Le plus grand crime de l'humanité ». Vigny, « La guerre est maudite de Dieu et des hommes ». Alors là, on a quelques citations avec des auteurs, mais là, je vous résume en quelques mots des dizaines de pages où il donne tous ses arguments. Autre argument, la guerre est ruineuse, hein, donc l'aspect économique. Et il est bien documenté, il cite de nombreux chiffres, des budgets militaires, des dépenses concédées par les États, et il évoque les trésors de guerre que les États se constituaient, qui étaient maintenant quasiment officiels, c'est-à-dire que dans chaque pays, on votait des sommes en réserve pour le cas d'une guerre. Et c'est pour ça qu'au début, par exemple, de la guerre de 14-18, les soldats anglais étaient des professionnels. Il n'y avait pas de conscription. Ils étaient payés. Et donc, parce que l'Angleterre était une puissance économique immense à l'époque. Donc, naturellement, que les dépenses hallucinantes pour préparer une guerre, pour ensuite pratiquer une guerre, eh bien, comme par hasard, c'est tout cet argent qui n'est pas mis pour des activités, on pourrait dire, constructives, sociales, des hôpitaux, des écoles, des routes, l'électricité, enfin, etc., etc. Donc, il a cet argument, la guerre est ruineuse. Ce sera le très grand argument d'un certain Jean de Bloch, qui lui, qui est un richissime Polonais. La Pologne est une province de la Russie jusqu'en 14, hein, et qui lui avait fait fortune dans les chemins de fer russes, et qui va dédier toute la fin de sa vie à déclarer la guerre à la guerre avec l'argument économique. Se préparer à la guerre, c'est vraiment contraire à toute logique. Et ce genre de bloc, notamment, va créer le musée de la paix et de la guerre à Lucerne. Musée qui, malheureusement, sera disloqué dans les années 1920. Mais c'était un des arguments des économistes. Frédéric Passy aussi, qui va partager le Nobel de la paix avec Dunant, était un économiste, et c'était son argument principal contre le militarisme. Mais Passy commence déjà, justement, en 67. Il commence sa croisade contre la guerre. Dunant, il va mettre une vingtaine d'années de plus. Autre argument, le souci d'être les plus forts et de se préparer à la guerre génère une perversion des inventions. Alors là, j'en cite juste une parce qu'elle est amusante. L'aérophone permettra aux généraux commandant des armées de plusieurs millions d'hommes d'amplifier tellement le son de leur voix qu'il deviendra possible à tous les soldats des divers corps de l'entendre directement à quelques kilomètres de distance, et par cet appareil, on pourra distinguer les commandements à plus d'une lieue à la ronde. C'est amusant, cet aérophone. Bon, maintenant, tous les soldats ont un téléphone portable et ils peuvent entendre les ordres de leur chef directement. Hein. C'est moins bruyant, mais c'est encore plus efficace.
Ils ont même une caméra sur le casque, comme ça le commandant peut voir qu'est-ce qui se passe sur le front.
Voilà, puis peut-être même qu'il y a une rétro-caméra qui voit ce qui se passe dans le cerveau des gars. Moi, je leur fais confiance. Autre argument, le militarisme pervertit la jeunesse. Je vous rappelle que les périodes de service militaire, c'était 3 ans, 4 ans, 5 ans. Hein. Et donc, on prenait des jeunes hommes qu'on mettait dans des casernes, et puis là, on leur bourrait le crâne. Et au bout de 3, 4 ou 5 ans de bon bourrage de crâne, t'as changé quelqu'un. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et cet aspect-là du militarisme était assez impressionnant. ce n'était pas comme nos armées composées de professionnels maintenant. Et alors, naturellement, il prend comme exemple Louis XIV, Frédéric le Grand, Napoléon Ier comme exemple de ces chefs d'État qui ont dévoyé la jeunesse de leur pays, soit par du service militaire, soit par des guerres. Parce que les hommes partaient, quand ils partaient avec les armées napoléoniennes, c'était pour 6 mois, 1 année, 1 an, 2 ans. Hein. On a des témoignages, oui.
Je me permets quand même une objection à cela, parce que j'ai beaucoup réfléchi aux Suisses engagés au service de l'étranger, notamment les Français, notamment au service du roi de France. Pendant longtemps, et je pense que ce n'est pas seulement en Suisse, il faut bien voir que la majorité de la population était paysanne. Et puis que il y avait toujours un moment de surpopulation, puis les jeunes, ils n'avaient aucun moyen d'exutoire de leur énergie et leur goût de l'aventure. C'est comme aujourd'hui. Donc, s'engager comme soldat, et ça a perduré jusqu'au milieu du 19e siècle, c'était la garantie d'être nourri, habillé, et puis de vivre des aventures, et d'aller au-delà, de voir d'autres pays, de voyager. Autrement, c'était des jeunes qui se rongeaient le frein chez eux. Enfin, c'est peut-être un peu idéal ce que je dis, mais... Je pense que ça a été un puissant moteur pendant longtemps.
Ah, assurément, mais
ça
malheureusement...
Ça ne veut pas dire que ces jeunes étaient pervertis.
Ils apprenaient à tuer, ils apprenaient à piller, ils apprenaient à violer, ils apprenaient... dans les armées, une armée qui conquiert un pays, il ne faut pas s'attendre à beaucoup, beaucoup de choses meilleures.
Les contrats de capitulation... Les Suisses au service étranger, c'était interdit. D'ailleurs, comment est-ce qu'il s'appelle là, le conservateur de la bibliothèque militaire
Ah oui.
Il nous en avait parlé.
Oui.
Le premier contrat du 14e siècle, où c'était clairement dit qu'il n'y avait pas de pillage et pas de viol.
Oui. Bon, tant mieux si c'était quand même une petite. Mais c'était quand même des tueries. Alors, un des autres chapitres est particulièrement intéressant dans l'avenir sanglant, c'est les génies méconnus et persécutés. Et alors, Henri Dunant se livre à une récapitulation de tous les malheureux inventeurs, promoteurs, précurseurs dont le sort a été tragique. Il nous parle de Bernard Palissy, donc qui avait réussi à trouver la manière de créer de la porcelaine en France, Mozart, Gutenberg, Harvey qui avait préconisé la circulation du sang, Roland Hill, ça on le sait moins, celui qui avait préconisé le système des timbres-poste en Angleterre. Au début, il était considéré comme un fou. Il y a des phrases incroyables. Benjamin Franklin, qui fait une grande conférence à l'Académie française pour les paratonnerres, et il ne recueille que des quolibets et des moqueries. Hein. C'est assez intéressant. Je peux vous dire que la liste elle est très, très, très longue. Une petite phrase. On accorde des titres nobiliaires aux destructeurs de l'humanité. On leur donne des millions, tandis que Shakespeare n'a pu vendre Hamlet, son chef-d'œuvre, que pour 5 guinées. Milton, aveugle, plongé dans la pauvreté, dans l'isolement, vend son paradis perdu pour 10 livres sterling. Les nobles esprits originaux souffrent bien plus que les autres, malgré la force de leur caractère et la clarté supérieure de leur intelligence. Le vulgaire ne peut les comprendre. Ce à quoi les gens ordinaires se soumettent sans grande difficulté amène dans certaines organisations supérieures et délicates une douleur intolérable. Combien ont ainsi été tués lâchement, clandestinement, à petit feu, etc., etc. Et là, on ne peut pas s'empêcher de penser que ce sont des réflexions autobiographiques.
Hein, ouais. Hein,
là, quand il dit, il parle de certaines organisations supérieures et délicates. Je pense qu'il pense tout à fait lui, une douleur intolérable. C'est assez émouvant parce que là, on peut penser que c'est un miroir de ce que lui a vécu et ce qu'il vit. Ceux qui rompent avec les idées reçues, avec les traditions d'école ou de clocher, ceux qui veulent réformer, faire le bien en dehors de la mode, de la routine, se trouvent pris dans l'engrenage de machines usées, gâtées, pourries, mais encore assez rudes pour les briser et assez fortes pour les broyer sans pitié.
Eh ben,
il sait dire les choses, hein?
C'est un anarchiste.
Disons qu'il y a un côté libertaire qui est tout à fait intéressant. Oui, c'est... Hein, c'est...
Excuse-moi. Tu as parlé tout à l'heure de trois points.
Trois? Oui, oui.
Ça correspond à quoi aujourd'hui à 7 ans?
Alors, j'ai pas les chiffres, mais ça permettait à l'époque d'être nourri, logé, blanchi dans une pension. Une pension modeste, mais une pension.
Je me souviens que papa avait dit que notre grand-père avait acheté un matelas à 5 francs et que c'était une chère payée.
Oui, alors, disons que alors, moi je peux pas te dire les. Je sais en tout cas que à cette époque, par exemple, un journal coûtait 5 francs le numéro et que la plupart des gens n'étaient pas abonnés aux journaux. C'était trop cher. L'argent avait une valeur tout à fait différente d'aujourd'hui. Un, parce que son pouvoir d'achat était beaucoup, beaucoup plus élevé. Puis deux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivaient dans des économies proches du troc. Hein, il était rappelé que la France, comme la Suisse d'ailleurs, était des pays encore très agricoles et que dans beaucoup de campagnes, les gens n'avaient pas d'argent. Le chef de famille avait peut-être de l'argent, mais encore peu d'argent, et qu'on vivait dans des économies, sinon d'autosuffisance, des économies de troc. Donc, le pouvoir d'achat des gens qui avaient de l'argent était beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Puis on ne pouvait pas créer de l'argent avec une carte de crédit, avec des trucs comme ça. Hein. Ça n'existait pas. Mais déjà, le pouvoir d'achat de 3 francs, c'est-à-dire pouvoir avoir un logement, de la soupe, et puis probablement son linge lavé pour 3 francs par jour, montre que 3 francs, c'était une somme déjà considérable. Hein, parce qu'aujourd'hui, pour être nourri, logé, blanchi dans une pension, c'est au moins 200 francs, un truc comme ça.
6 jours correspondait juste un petit peu moins qu'un vrai de lait. 20 francs.
20 francs, oui. 20 francs, oui.
Si on considère la valeur du vrai de lait rapporté à l'époque, ça correspond, un sixième d'un vrai de lait. Un vrai de lait vaut quoi, 300 francs aujourd'hui, donc ça faisait 50 francs par jour si on calcule en termes d'aujourd'hui. C'est 3 francs d'autrefois, ouais, correspond à 50 francs maintenant.
Ah, ouais. Puisqu'on a un petit temps mort, est-ce que je peux vous demander de signer notre livre d'or? Puisque...
Marc, si on multiplie par 365 les 3, c'était quand même une belle somme par année, divisé par 12 ans, par mois.
Voilà, qui est-ce qui s'y colle pour mettre un petit mot au début?
Ça suffit pas pour être nourri, blanchi, logé.
Là, je vous demanderai à tous et toutes de mettre un petit mot dans notre livre d'or pour qu'on en garde, souvenir de ce moment mémorable. Pardon. Je sais pas pourquoi Cécile, ça tombe direct sur moi.
Comment ça se fait?
C'est les intellectuels.
Ceux qui pensent.
Voilà, exactement. Mais si, je pense.
Voilà. Donc, on parlait juste du pouvoir d'achat de 3 francs de sa rente viagère.
Ouais. Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? On pensait à ça. C'est...
Donc, en tout cas, ça lui suffisait pour être, par exemple, à Haydn. Mais, ouais, mais encore, c'est difficile à dire, parce que à Haydn, donc, où il va s'établir de façon définitive, ouais, il va de pension en pension. Alors, est-ce qu'il avait, est-ce qu'il y avait des gens qui payaient pour lui? Est-ce que, on sait pas. On ne sait pas, c'est très compliqué.
Le seul moyen d'avoir une idée de la valeur de l'argent aux différentes époques, c'est de savoir combien coûtait une miche de pain.
Oui, c'est ce qu'on dit, hein, une miche de pain.
Une miche de pain, ou bien café, non, mais un litron de vin, ou des choses comme ça. Ouais. C'est la seule référence possible.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'est imparable, parce que tu peux même faire l'exercice dans la Bible.
Oui, il faudrait. Bon, je sais qu'il y a des études, mais je n'ai pas eu connaissance. Et une des choses qui m'avait frappé, c'est qu'il faut se méfier pour les produits. Alors, le pain, le vin, tout à fait. Mais par exemple, le beurre coûtait extrêmement cher.
Bon, oui,
c'était un produit de luxe. Hein, c'est étonnant.
Le sel, c'était encore autre chose.
C'était une taxe.
Toujours la régale, c'est-à-dire c'était royal, c'était la stratégique, le sel.
Oui, et puis c'était une régale, un des droits de... D'ailleurs, c'est assez marrant parce que là, par exemple, Henri Dunant, dans son Avenir sanglant, dénonce la centralisation et la toute-puissance de l'État. Mais c'est marrant que tu parles du sel. Sous prétexte de salut public, on taxe la nourriture, les vêtements des classes pauvres et tout ce qui est nécessaire à leur existence, à leurs aises, à leur confort, toutes les denrées nécessaires à une vie saine et hygiénique, tous les articles qui sont indispensables au peuple, jusqu'au pétrole qui permet à l'artisan de lire et de s'instruire durant la longue soirée d'hiver, même l'outil étranger qui simplifie le travail. Tout devient objet de luxe. C'est marrant. Hein?
Taxe à la valeur ajoutée.
Oui. Et au profit de l'État.
Ce qui est fascinant, c'est de penser que Henri Dunant est issu d'une bonne bourgeoisie assez aisée, quand même, et puis qu'il... Je trouve fascinant que ce Dunant, issu d'une famille de bonne bourgeoisie, avec certains moyens, il est évolué à tel point, et c'est positif, mais pour devenir un libertaire complet.
Ouais, ouais.
C'est fascinant de voir ça.
Bon, il faisait partie de ces gens qui détestaient les institutions, comme les églises, comme l'État. C'est une attitude philosophique générale. Alors, vous le verrez dans ce livre-là, il tire à boulet rouge contre toutes les églises pour revenir au christianisme du premier siècle. Et là, c'est un autre combat. Ce n'est pas seulement le fonctionnarisme qui est un fruit néfaste du militarisme, mais aussi la centralisation à outrance. Comme en France, où il existe une armée permanente de 500 000 fonctionnaires, c'est-à-dire une bureaucratie qui empêche les réformes et qui est trop souvent animée du goût de l'arbitraire.
Bravo,
fonctionnarisme et centralisation bureautique bureaucratique, favorise partout l'esprit du militarisme d'une manière fatale. C'est assez étonnant, cette aversion pour tout ce qui est organisation étatique. Et un des autres combats qu'il mène, c'est sur la responsabilité des écoles. Les écoles qui se réfèrent au monde classique. Je vous rappelle que le latin était encore au collège de Genève. Pour avoir ta matu, tu devais encore faire une dissertation en latin jusqu'à la fin du 19e siècle. On se réfère à l'histoire des Grecs et des Latins et des Romains, qui sont des histoires de conquête, de guerre, de héros à la Jules César, etc. Alors il a plusieurs pages assez critiques sur l'école d'aujourd'hui, qui au fait vise à mouler l'intelligence à la force brutale. Donc, et puis il y en aurait beaucoup d'autres, etc. Donc vous voyez son approche de la société. Alors, en guise de conclusion, parce que ça fait déjà un long moment que je parle. Hein.
Il y a pour 24 heures d'enregistrement disponible.
Bon. Alors, en guise de conclusion, les véritables principes sociaux consistent dans le gouvernement pacifique des autorités sociales normales. Ces autorités sont la justice au-dedans et au-dehors, la science et enfin la sagesse, renfermant la véritable économie sociale, universalisée, généralisée pour le bien de l'humanité. Toutes trois, justice, science, sagesse, représentées par les hommes d'âge, de foi, d'expérience, d'études, les plus sages, les plus savants et les plus justes, les plus indépendants, par les vrais économistes pratiques dirigés par des principes fixes en dehors de toute politique, réunis en conseils spéciaux, en arbitrage, en corps enseignant libre, ayant un caractère magistral et n'étant pas influencés par le pouvoir quel qu'il soit. Enfin, tout au bas de l'échelle, c'est-à-dire au premier plan, par les pères et les mères de famille, réunis en conseil de commune, présidés par des anciens, et déléguant leurs anciens d'âge et d'expérience au conseil des anciens qui représentent la tribu, le clan, le canton. Voilà donc le credo, on pourrait dire politique organisationnelle d'Henri Dunant. Et vous remarquez, enfin, tout en bas de l'échelle, c'est-à-dire au premier plan, par les pères et mères de famille réunis en conseil de commune. Il met les mères, donc les femmes. Ouais. Et ça, c'est un tout petit peu nouveau, c'est-à-dire de donner le pouvoir politique de base aussi aux femmes, mais aux mères. Hein. Faut pas n'importe quelle femme. Hein. Oh là là.
Quand il parle de canton,
alors je sais pas.
Est-ce que c'est canton au sens français du terme ou au sens suisse du terme?
Il dit la tribu, le clan, le canton, c'est une structure politique, mais je sais pas laquelle. Ouais. Peut-être que, tu sais, quand même, toute sa formation, elle a eu lieu à Genève, ouais, qui est un canton. Je pense qu'il pense bien à un canton, donc une unité politique. Ouais. Je suis pas sûr. Je vois que Cécile a mis un petit mot.
Non, j'ai encore rien mis.
Ah zut alors, bon, tant pis. Alors,
peux continuer.
Nous voyons. Oui, alors passe là à Olivier Jean, parce que je sais qu'il écrit très bien, Olivier Jean. Bien, alors, ce livre est resté sous le boisseau, on est bien d'accord. Il n'a pas été publié, il n'est pas encore publié, alors qu'il est, il est vivement intéressant. Bon, il y a quelques pilleurs de tombes qui en ont pris des petits bouts ici, mais mon Dieu, comme personne d'autre ne le faisait in extenso, on peut les comprendre. Mais c'est clair que on peut se demander si vraiment ce fut un échec complet pour Henri Dunant. Et je n'ai pas envie de le dire, parce que les recherches, les mises en forme, la rédaction de ce projet de livre ont donné à Henri Dunant une évolution, on pourrait dire intellectuelle et philosophique et religieuse, qui a pris une forme solide. Et ça lui a permis d'entrer en contact avec les milieux pacifistes, d'envoyer des textes. Il a publié plusieurs de ses chapitres, au 2, 3 ou 4, hein, pas plus, dans, par exemple dans la revue des pacifistes germanophones qui s'appelait Die Waffen Nieder, Abat les armes. Et je vous rappelle que dans les années 1890, la culture allemande était une des cultures qui étaient les plus dynamiques et les plus appréciées. Hein. À l'époque, vraiment, l'allemand était une langue de culture de premier plan. Et d'autre part, Henri Dunant s'est plus engagé dans des combats ponctuel. Par exemple, en 1898, il signe avec Bertha von Suttner, qui était donc la grande égérie des pacifistes germanophones, un petit opuscule en allemand et en français. En français, c'est la proposition de Sa Majesté l'Empereur Nicolas II. Nicolas II avait fait des propositions de réduction des armements. Réduction internationale. Naturellement, ça n'avait pas été suivi. Est-ce que la Russie était de bonne foi? C'était quand même une des grandes puissances militaires de l'époque aussi. Mais là, Dunant prend position et se fait connaître dans des milieux importants du pacifisme. Et on peut penser que dès qu'il entreprend sa quête du prix Nobel de la paix, il a des arguments, il a une conviction et il se fabrique une image de pacifiste de premier plan. Et probablement que ce travail de préparation et de rédaction lui a permis d'entrer dans la stratégie, dans la philosophie pacifiste de plein pied. Alors que, je vous le rappelle, pendant toute la première période de sa vie, c'est un lecteur de l'Ancien Testament plus que du Nouveau Testament, et c'est un partisan de l'action militaire, de l'action brutale, du triomphe des armes. Son livre publié en mai 1859, l'Empire de Charlemagne rétabli par Sa Majesté l'Empereur Napoléon III le confirme si besoin était. Donc on peut penser que cette maturation de philosophie politique pacifiste lui a permis de se positionner comme un leader compétent du pacifisme, et opération qui s'est conclue par l'obtention du prix Nobel de la paix en 1901. Et il est important de se rappeler que cette attribution du prix Nobel de la paix à Henri Dunant, qui était perçu dans toute l'Europe, sauf à Genève, un petit peu Genève, c'était le village d'Astérix à l'époque, hein, comme il était perçu comme le fondateur de la Croix-Rouge. Et ça veut dire que la Croix-Rouge, qui à l'époque était aux ordres des armées, hein, tous les comités, conseils d'administration des sociétés de la Croix-Rouge étaient peuplés d'amiraux, de généraux, de militaires de tout poil. Je vous rappelle que au moment de la mobilisation en 1914, le président de la Croix-Rouge suisse se rend auprès du médecin-chef de l'armée et lui remet ses pouvoirs. Et la Croix-Rouge suisse devient un organe de l'armée suisse. Parlez-nous d'indépendance à ce moment-là. Hein? Et donc, cette marque pacifiste qui est projetée sur l'institution Croix-Rouge en la personne d'Henri Dunant va permettre à la Croix-Rouge de faire une mue extrêmement importante, puisque aujourd'hui, la plupart des activités de la Croix-Rouge se font ou pour les populations civiles, ou pour réparer des dégâts de la guerre, mais plus pour être auxiliaire des armées. encore qu'il y a un certain nombre d'endroits où c'est le cas, hein. Mais en tout cas dans les grandes organisations de la Croix-Rouge, le principe fondamental d'indépendance est maintenant proclamé.
Proclamé.
Donc on peut penser que cette préparation de ce livre, même si ça n'a pas abouti à une publication, a permis à son auteur de retrouver une consécration mondiale qu'il avait perdue depuis 67, et puis a permis à son œuvre, la Croix-Rouge, de franchir un cap et puis de se diriger vers ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une institution humanitaire et non plus une institution militaire.